97.1 FM. Merci d'écouter Radio Shalom Dijon.
Fabien Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir sur les ondes de Radio Shalom Dijon pour parler de votre livre Istanbul, dernier arrêt, 4 ans dans les prisons turques. Ce livre raconte votre histoire et vos témoignages. Vous êtes franco-américain, vous avez étudié à l'Université de sciences économiques Paris-Dauphine, puis vous êtes parti à New York où vous avez été directeur général d'un spa pour hommes et vous avez développé avec succès un concept d'institut de beauté pour hommes et femmes. Cette histoire cauchemardesque commence le 25 septembre 2017, alors que vous avez 40 ans, à Istanbul, où vous allez pour la dernière étape de votre tour du monde, avec l'objectif de vous faire greffer des implants capillaires. Vous arrivez à votre hôtel et vous récupérez à la réception un colis commandé depuis Israël. Mais avant de parler de ce qui arrive à l'hôtel, peut-être pouvez-vous nous parler de votre vie à New York?
Ben écoutez, Aurore, j'ai déménagé aux États-Unis, donc à New York, juste avant l'année 2000, et j'ai vite rencontré. Enfin, au début, je me cherchais un petit peu. J'avais un stage en finance qui était très bien payé d'ailleurs à l'époque, et j'ai fait ça pendant à peu près 6 mois. Mais je travaillais tellement que j'étais crevé les week-ends. Et je me suis un jour regardé dans le miroir et je me suis dit, mais je vais pas tenir à ce rythme-là. Ensuite, il y a le 11 septembre qui s'est passé, qui a changé toute la donne, puisque la compagnie d'assurance et AIG qui devait me sponsoriser n'a pas pu le faire à cause du 11 septembre. Et j'ai en fait rencontré une personne qui m'a pris en tant que général manager dans un spa pour hommes. Donc, c'était complètement nouveau pour moi, mais avec mon expérience en gestion et en management, je me suis très vite habitué. Donc, j'ai travaillé dans ce spa pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, j'ai décidé de lancer ma propre marque, mais cette fois-ci pour hommes et femmes. Donc, j'ai ouvert mon premier spa en 2003, mon deuxième spa en 2007 et mon troisième en 2011. En fait, New York, c'est un endroit où vraiment, quand les choses arrivent, bah, ça vous arrive en avalanche, en fait, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que petit à petit, enfin, non, rapidement, je me suis fait une bonne réputation dans les milieux du spa, ce qui m'a permis d'attirer une clientèle assez huppée, avec notamment des célébrités qui venaient me voir régulièrement, où on allait les servir dans leurs hôtels, et qui sont devenus non seulement des clients, mais pour certains d'entre eux, des amis. Donc, j'ai vécu 15 ans, on va dire, de rêve américain, de magie, de quelque chose que je me disais, j'avais besoin de me pincer pour me dire, est-ce que c'est ma réalité? Pourtant, c'était bien ma réalité. Alors, j'avais quand même gardé un petit côté français où je m'octroyais 3 mois de vacances par an. Donc, j'avais des managers pour s'occuper de mes spas et je voyageais énormément. Alors, bon, tout n'était pas parfait à mon retour, mais j'arrivais à remettre les morceaux en place et à repartir de plus belle, en fait. Donc, j'ai vraiment eu ces 20 ans à New York, ont été une période de ma vie qui a été magique, vraiment magique, et que je n'oublierai jamais.
Et vous partez faire un tour du monde avec
Oui,
une
et donc,
dernière étape à Istanbul.
alors c'est exact. Alors, un petit détail qui s'est passé en 2016, j'ai une cliente qui est venue me voir et qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais entre la couleur de ses ongles rouges ou rose nacré. Et dans ma tête, je me suis dit, je l'ai regardée sans rien lui dire, mais dans ma tête, je me suis dit, mais il y a tellement de choses plus importantes dans le monde que la couleur de vos ongles. Et à ce moment-là, j'ai décidé que l'activité des spas ne me faisait plus vibrer intérieurement. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de profondeur. Et je me suis dit, je vends tous mes spas et je vais faire un tour du monde d'un an pour me vider la tête, en fait. Et essayer de trouver une activité qui me ferait vibrer. Donc, j'ai fait un tour du monde de septembre 2016 c'était jusqu'à janvier 2018. Avec mon dernier arrêt, Istanbul, comme s'intitule mon livre, Istanbul, dernier arrêt. Et j'allais rester quelques mois à Istanbul après une intervention chirurgicale pour faire des implants capillaires, pour m'assurer que les implants étaient bien faits. Ça me coûtait moins cher d'être à Istanbul que d'être à New York. Donc, Je me suis dit autant rester quelques temps à Istanbul. Sauf que dès mon arrivée à Istanbul, avant mon arrivée à Istanbul, j'avais commandé depuis Israël donc un colis, une substance qui venait d'être interdite à la liste des produits interdits en Turquie, et je l'ignorais totalement puisque je l'ai commandé en mon nom, avec ma carte de crédit, avec mon nom, mais l'adresse de l'hôtel où j'allais le réceptionner. J'ai donc ouvert le paquet devant la réceptionniste, lui ai confirmé que c'était bien ce que j'avais commandé. Je l'ai fermé, je me suis retourné, et là, police, vous êtes en état d'arrestation.
Alors, peut-être
Donc,
peut-on préciser de quoi ça, il s'agit, de quel produit il
oui,
s'agit?
tout à fait. Il s'agissait de GBL, qui est un excitant sexuel que, oui, je consommais pendant l'année de mon tour du monde. C'est un produit qui m'avait été recommandé par mes amis qui sont étudiants en médecine, parce que c'est un produit qui part très vite du sang, en fait. Après 2 heures, il est indétectable dans le sang. Donc c'était un stupéfiant, mais c'était quelque chose qui était pas aussi toxique que d'autres narcotiques.
Et je pense qu'on peut préciser qu'à aucun moment vous n'avez eu le sentiment et la volonté de commettre une infraction ou quelque chose d'illicite, parce qu'on apprend plus tard en lisant votre livre que ce produit était autorisé en Turquie jusqu'au 4 juillet 2016.
Tout à fait. Et en fait, sur le site sur lequel j'ai commandé, il y avait 5 pays vers lesquels la vente était interdite. Et la Turquie n'en faisait pas partie. Donc moi, c'est en toute bonne foi que j'ai commandé sous mon nom. Donc il n'y a clairement pas une volonté de tromper la douane. Et en plus, j'ai vu que ce paquet a été retenu à la douane pendant une dizaine de jours. Et je me suis dit, ah bah, ils l'analysent. Au pire, ils saisissent le paquet. Et puis c'est terminé. J'ai perdu 160 euros. C'est vraiment pas la fin du monde. Sauf que le destin en a décidé autrement. Plutôt la police turque en a décidé autrement. Ils ont décidé de me piéger. Et donc je me suis fait arrêter le 25 septembre 2017.
Et donc, vous êtes arrêté immédiatement en ouvrant le paquet devant la réception de l'hôtel. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Là, on m'enferme, on me note directement. On m'emmène dans une camionnette, dans un fourgon de détenus, en fait, et je commence à leur dire, mais j'ai commandé ça pour moi. Je leur montre le reçu, et ils m'ont posé une question: est-ce que vous êtes gay? Et j'aurais dit oui, parce que moi, me croyant encore en Amérique ou dans une démocratie comme la Turquie se dit être, ils m'ont dit ensuite: bienvenue dans votre nouvelle maison. Alors, il faut savoir qu'ils avaient en leur possession mon passeport français, mon passeport américain. Ils savaient que j'étais juif puisque mon passeport était tamponné de tampons d'immigration en Israël, que je revenais d'Israël, et pour eux, c'était un peu le tiercé gagnant. Parce qu'ils se sont dit, bah voilà, celui-là, on va le garder au chaud pendant longtemps. Ils savaient pertinemment que cette substance était commandée, était très consommée dans ma communauté, et ils savaient que j'étais pas un dealer ou quoi que ce soit, mais ils ont voulu me faire payer, bah, pour tous ces quatre éléments: français, américain, juif et gay.
Et il me semble qu'ils utilisaient aussi le fait que c'était une commande de 2 litres, parce que vous ne pouviez pas avoir moins que ce.
C'est ça. Sur le site web, la commande minimum était de 10 litres. Mais il y avait des commandes de 5 litres, de 2 litres. Et il y avait des commandes de 5 litres, de 10 litres, même de 50 litres. Donc moi, j'ai commandé le minimum, et jamais j'aurais pu m'imaginer me retrouver en prison à cause de ça. Les
Alors.
juges même ne connaissaient pas le produit.
Alors, quelles sont les conditions de détention quand vous arrivez en prison?
Alors, je suis donc amené en prison le lendemain, le 26 septembre, et je suis au départ dans une cellule de quarantaine où on me donne un matelas, enfin, rempli d'urine, de taches, et je me dis, mais jamais je pourrais dormir là-dessus. Pendant ces 8 premiers jours, donc je suis à l'isolement, on me passe du pain qu'on jette par terre par une ouverture. Donc ma faim est complètement coupée. La seule chose que je fais, c'est boire de l'eau, et c'est tout, en fait. Je n'ai pas faim. J'ai l'impression que le temps s'est cristallisé, et qu'il y a mon frère qui va arriver, qui va ouvrir cette porte, et que je vais être enfin libéré. Mais c'est pas ce qui se passe. En fait, après 8 jours, je passe devant une commission des directeurs de la prison et de psychologues. Et la première chose que je leur dis, c'est: mais j'ai pas pu me brosser les dents depuis 8 jours. Et la psychologue rigole et me dit: bah oui, c'est pas l'hôtel ici. Et donc je comprends que, bah, je vais devoir apprendre les règles, et je vais devoir les apprendre rapidement. Je suis donc transféré dans une cellule, la C13, où je suis reçu par 60 détenus, avec tout crime confondu. des terroristes, talibans, Daesh, des trafiquants d'armes, trafiquants de drogue, des violeurs d'enfants, des, enfin, je vous passe des trucs que j'ai un peu oubliés d'ailleurs parce que c'était tellement, tellement des choses que l'on croit voir seulement dans les films et que moi, venant d'un monde totalement différent, ça me paraissait mais cauchemardesque, rocambolesque et surréel. Et donc, on m'explique les règles de la prison, parce qu'il y a les règles de la prison, mais aussi les règles de la cellule. Chaque cellule a un président autoproclamé qui vous fait payer un loyer. La prison, elle, vous fait payer de l'électricité. Et donc, si vous si vous refusez d'obtempérer, eh bien, vous avez des sanctions. Et les sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion de la cellule. Où le président de la cellule s'assure, parce qu'il est ami la plupart du temps avec les gardes, que vous allez aller dans une cellule encore pire que celle où vous êtes. Donc évidemment, moi, le nouveau, ne comprenant pas tout ce qui se passe, j'ai dit amen et oui à tout. Donc les règles sont dures. Au début, je dors dans le salon avec mon matelas à même le sol, sans couverture, sans oreiller, sans rien du tout, parce qu'il fallait tout acheter à la cantine. Donc la cantine, c'est un espace où une fois par semaine, vous pouvez commander. Bah, tout ce qui est disponible, brosse à dents, dentifrice, oreiller, serviette de bain, lait de toilette, hein, tout ce dont vous avez besoin, plus aussi des aliments, seulement si vous avez de l'argent. Donc, grâce à mon frère, qui est le grand héros de cette histoire, c'est grâce à lui, plus mes avocats français, que j'ai été libéré. Il m'envoie de l'argent toutes les semaines sur mon compte de prison, ce qui me permet de faire de la cantine bah, toutes les semaines au seuil maximum et de partager aussi avec mes codétenus parce que eux, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas d'argent. Leur famille ne leur envoie pas d'argent ou n'ont pas d'argent. Et donc, j'essaye d'acheter un peu ma paix et c'est quelque chose qui marche pour la plupart du temps.
Je crois que votre frère vous a beaucoup aidé, il est venu vous voir de nombreuses fois.
C'est exact. Xavier, donc, est venu me voir. J'ai fait 4 ans d'emprisonnement, 4 ans et 1 mois au total. Mais en 2 ans, les 2 premières années, Xavier a fait des allers-retours Paris-Istanbul 42 fois pour me voir 40 minutes, les 3 fois par semaine derrière un mur de glace et 3 fois par mois derrière un mur de glace. Et une fois par mois, on pouvait se serrer dans les bras. Donc, je sais pas si vous imaginez de voir son frère faire 1 500 km pour 40 minutes de visite, la plupart du temps au téléphone, enfin au téléphone, mais en le voyant quand même derrière ce mur de glace, et une fois par mois où je pouvais le serrer dans mes bras et pleurer avec lui, et lui qui essayait de me, solide comme un roc, qui essayait de me soutenir et me dire que ça allait bientôt être fini, qu'on allait trouver une solution, et qui m'a aidé à tenir en fait, qui m'a aidé à tenir et ne pas abandonner le combat.
Alors, il travaille aussi avec les différents avocats turcs successifs que vous avez eus, les interprètes et...
Alors oui, interprète, on en a eu juste au tribunal, à l'audience, mais je n'ai jamais reçu d'interprète avec moi quand les avocats sont venus me voir. La plupart d'entre eux parlaient un anglais correct, je dois dire, et à chaque fois le discours était le même, c'est-à-dire que la première m'a dit, ça fait 25 ans que je vois des détenus en prison. Votre cas, vous n'allez pas rester des mois, vous n'allez pas rester des semaines, vous allez rester quelques jours en prison. Mais j'ai sorti des barons de la drogue et vous, dans votre cas, vous n'avez rien à voir avec ça. Les juges ne connaissent pas ce GBL. Ne vous en faites pas. Un des juges à votre prochaine audience est mon ami. Vous êtes dehors. Dites à votre frère d'acheter le billet de retour Istanbul-Paris. Donc quand on vous dit ça à répétition, bon, et qu'il y a des reports d'audience et tout, vous y croyez. Vous vous dites, ça va s'arrêter. Donc peut-être que cette technique du bâton et de la carotte m'a aidé aussi quelque part à tenir, je n'en sais rien. Le soutien que j'ai eu de mes amis aussi qui m'envoyaient des lettres de façon hebdomadaire m'a aidé à tenir. Les lectures que j'ai faites m'ont aidé à tenir, si vous voulez que je détaille
Oui, vous
les
pouvez
lectures que j'ai faites.
préciser. Vous avez
Alors,
beaucoup lu.
j'ai énormément lu et en fait, je pense que la raison pour laquelle j'ai été en prison, c'est que j'avais un peu avant cette existence un peu superficielle où ben, je lisais jamais. Moi, je pensais que les livres étaient des bibelots, en fait, je lisais très très peu ou pas des choses ou des choses avec peu de substance. Et en fait, loin de toutes les distractions, loin du téléphone, loin des soirées, loin des amis. En fait, j'ai eu du temps pour me recentrer sur d'autres choses qui ont plus de substance. Et donc, j'ai lu des livres qui m'ont été envoyés par des amis, dont un de Viktor Frankl qui s'appelle alors en anglais, ça s'appelle Man Search for Meaning, mais en français, je me souviens plus de la traduction. Donc, vous devrez m'aider si vous l'avez, mais c'est un livre qui parle de la logothérapie. Donc, Frankl était un brillant psychiatre qui a été déporté pendant la Shoah, et c'est l'un des peu de survivants qui a eu. Et en fait, il expliquait que si l'homme a un but dans sa vie, eh ben, quoi qu'il se passe, quelle que soit la dureté des événements, il réussira toujours à s'en sortir et à tenir. Alors, c'est un peu réducteur, bien sûr, de dire ça parce qu'il faut une force de mental assez fort. Mais de par son récit, j'ai réussi à amenuiser ma condition et me dire que, OK, c'est pas bien, c'est horrible ce que tu vis, mais quelque part, il y a d'autres erreurs judiciaires dans le monde qui existent, et il y a aussi ce qui s'est passé avec les survivants de la Shoah, et c'est un monde complètement différent. Donc ça m'a aidé à tenir, oui.
Et je crois que
Plus
vous
des
écoutez
livres.
aussi la radio.
J'ai écouté beaucoup la radio, c'est exact. Alors, c'était surtout des chansons turques qui sont vraiment atroces, atroces, atroces. Mais quand il y avait des bagarres qui éclataient dans la cellule, je mettais mes écouteurs à fil, dans la radio, dans une petite radio à antenne télescopique, et j'écoutais la seule radio qui captait, que la prison captait, à cause des barbelés, à cause des murs très hauts. En fait, on n'avait qu'une seule radio qui était captée. Et un beau jour, donc je reviens un peu en arrière, parce qu'en novembre 2019, je me suis fait agresser par un détenu radicalisé qui venait de tuer sa mère et son père, qui écopait d'une peine de 125 ans. Et donc, il était dans la cellule pendant 2 jours et il m'a agressé avec une bouilloire d'eau chaude en criant Allahu Akbar, et en m'envoyant la bouilloire d'eau chaude sur le visage et sur le torse. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi tout ce mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Quelques jours après, je me suis dit, écoute, oui, t'as le visage marbré, mais c'est une brûlure au second degré, mais peut-être que ça va partir, et puis peut-être qu'il aurait pu mettre de l'huile ou de l'acide dans cette bouilloire. Et là, j'aurais été vraiment défiguré à vie. Donc, j'ai réussi donc à me persuader que c'était pas si mal que ça. Et quelques jours après mon agression, j'étais justement en train d'écouter la radio et j'entends une chanson que je crois reconnaître. Donc, je l'entends une première fois, la chanson passe. Bon, je me dis, c'est pas grave, voilà. Et c'était une chanson en hébreu, ça j'ai reconnu. Et je me suis dit, quand même, en Turquie, de passer une chanson en hébreu, je n'en avais jamais entendu auparavant. La chanson repasse une deuxième fois. Je dis, mais que je connais cet air. Une troisième fois, je réalise que c'est une chanson que j'ai entendue à ma bar mitzvah. Au total, la chanson passera 8 fois, dans une seule et même journée, puis ne passera plus jamais. Et donc, c'est la chanson Gam Gam Gam. Il est vrai qu'il y avait eu un remix de cette chanson en 2018, mais je l'ignorais puisque j'étais en prison. Et en fait, quand je suis arrivé à la santé, ne parlant pas hébreu, ou ne comprenant pas l'hébreu, quand je suis arrivé à la prison de la santé, donc la quatrième et dernière prison avant ma libération, j'ai appelé directement mon père qui habitait en Israël à ce moment-là, où je lui ai demandé de me traduire les paroles de cette chanson. Et tenez-vous bien, cette chanson disait, quand tu seras dans la vallée de la mort, entre parenthèses, Dieu serait là pour te tenir la main. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai refait ma connexion avec Dieu et avec le divin. Moi, qui étais jusqu'en 2016, 2017, j'étais devenu athée, j'avais perdu toute croyance en Dieu. Je pensais qu'au Dieu de l'argent, que Dieu de la réussite, mais j'avais oublié ma connexion avec Dieu, qui est une connexion mais bien plus profonde que tous les aspects matériels qu'on peut imaginer. Et donc, ça a été un moment très fort de mon incarcération qui m'a vraiment fait comme un déclic et qui m'a refait croire en Dieu. Et aujourd'hui, cette croyance, je l'entretiens en mettant les téphilines tous les jours. Téphilines qui m'ont été offertes 1 minute avant ma sortie de la prison de la santé par l'aumônier, que je remercie d'ailleurs, ça m'aide à nourrir cette relation avec Dieu que j'ai.
Alors, on peut reprendre le fil de l'histoire parce que c'est un dédale judiciaire dans un système juridique qui est très différent du droit français ou du droit américain. Et vous pouvez nous raconter les différentes audiences.
Tout à fait. Donc, il y a eu en tout quatre audiences différentes. La première a été une comparution immédiate, donc le 26 septembre 2017, où le juge a demandé entre 20 et 30 ans de réclusion. Ceci, je ne l'apprendrai que plusieurs mois après mon incarcération. Je pense que la première avocate que nous avions engagée, mais qu'on a virée de suite, n'osait pas me le dire, en fait. Il y a eu une deuxième audience en novembre 2017, où mon avocate avait donc dit à mon frère de prendre le billet d'avion parce que j'allais être libéré le lendemain, parce que son ami était juge. Je suis arrivé à l'audience, j'ai vu son ami, parce qu'elle m'avait décrit où il serait, et je l'ai vu pendant toute l'audience regarder son téléphone et n'avoir aucun intérêt à mon cas. Alors moi, il y a une partie de moi qui me disait, OK, ça veut dire qu'ils ont déjà pris leur décision, ça va être classé, je vais être libéré. Sauf qu'à l'issue de cette audience, il y a eu un report d'audience. Le juge, le président de la cour, a dit devam, qui veut dire en turc, affaire à suivre. Donc j'ai été ramené en prison. L'avocate est revenue me voir le lendemain, elle me dit, vous en faites pas, la prochaine audience, vous êtes libéré. On voulait pas libérer, il a libéré quelqu'un hier, il voulait pas que ça soit suspicieux. Donc moi, encore une fois, tenté de la croire. On attend la prochaine audience qui a lieu en janvier 2018. Donc de septembre 2017 à janvier 2018, il faut que je me creuse mon trou dans la prison, que je me fasse aux règles, que je m'adapte. En janvier 2018, elle apparaît à l'audience et je vois un panel de juges complètement différent. Et donc je sais à ce moment-là que son ami ne fait plus partie des juges de l'audience. Les juges qui viennent de se familiariser avec mon cas ne vont pas donner un verdict. Et donc, encore une fois, l'audience est reportée. Cette fois-ci au 27 février 2018. La dernière fois, elle me dit le 26 février 2017, elle vient me voir pour me dire, écoutez, il y a un problème, les juges ont été encore à nouveau changés, donc ils vont pas pouvoir vous juger. Je lui dis mais comment est-ce possible d'avoir trois audiences et trois fois des juges différents qui changent? Elle me dit c'est le système turc, je peux rien y faire. Je lui dis mais est-ce que vous pensez que je vais être libéré à l'audience d'après? Elle me dit 100%. Donc je vais à l'audience du 27 février 2018. Mon frère est là, je le vois avec les yeux rougis, mais je n'ai jamais vu tant de peine. Il avait de la peine pour moi et je pense qu'il savait ce qui allait se produire ce jour-là. Le juge, le président de la cour, était donc un homme qui était certainement plus jeune que moi. Il devait avoir 39-40 ans, et moi j'avais 41 ans donc à l'époque. Et en 15 minutes, sans avoir lu mon dossier, il me donne un verdict de 20 ans de prison, qui sera ensuite ramené à 16 ans et 8 mois pour bon comportement à l'audience. Et c'est là, en fait, que me retourne sur mon frère, j'explose en sanglots. Lui aussi, mon avocate apparemment s'évanouit en dehors de la salle d'audience. Et il y a l'interprète qui vient me voir dans la cellule d'attente, juste en dehors de la cour, de la salle d'audience, qui elle aussi est en larmes, parce que je lui demande, mais est-ce que j'ai vraiment été condamné à cette prison? Et elle me dit, oui, mais personne ne comprend, on sait tous que vous êtes innocent, on va faire appel de cette décision et ça va bien se passer, je vous le promets, je vous le promets, je vous le promets. Toujours est-il que une fois que j'avais mon acte de condamnation qui disait date de libération mai 2034, mon incarcération a pris une toute autre di dimension et toute autre réalité, à laquelle je me suis refusé pendant pas mal de temps, jusqu'à une certaine acceptation. Après 1 an et demi, 2 ans après ça, je commençais à accepter que, bah oui, j'allais passer les 16 prochaines années de ma vie en prison. Et je parlais donc 10 minutes à mon frère, parce que il y avait seulement ça qui était autorisé, hebdomadairement. Et donc, mon frère se battait becs et ongles avec les avocats français, Carolivia Montenot et Françoise Imbray, qui ont tous deux fait un travail remarquable. François s'est occupé admirablement du côté diplomatique. Carole Olivia Montenot s'occupait de me faire tenir psychologiquement, mais aussi lui a une approche très diplomatique, très fine. Elle est plus, on rentre dedans, mais la combinaison des deux a été un mariage parfait, puisque en fait ils ont réussi à me faire sortir. Donc 3 ans et demi, 3 ans et quelques mois après mon incarcération, j'entends dire par mon frère que Macron a parlé à Erdogan en marge du G7 de mon cas, La nouvelle est assez mal accueillie par moi parce que je sais l'animosité d'Erdogan envers Macron. Je sais qu'il le traite d'islamophobe et d'homosexuel tous les jours à la télé, puisqu'il y a seulement des ch chaînes turques en Turquie, et je le vois et j'entends ce qu'il dit. À force d'être en Turquie, je comprends quelques mots, pas entièrement, mais j'arrivais à me débrouiller. Et donc je dis à mon frère, mais vous êtes fou. Vous êtes fou, il va me donner 40 ans de prison. Et Xavier me dit, ne t'en fais pas, on a les choses en main, on prend les choses en main. Cette fois-ci, c'est du sûr. Alors, il faut aussi savoir qu'auparavant, il y a eu tout un stratagème, plusieurs stratagèmes qui ont été imaginés pour me faire sortir de prison. À un moment, on devait me faire évader, on devait me faire transférer de prison, de la prison de Maltepe à Istanbul, à une prison proche de la frontière turque, où il y aurait un bateau et un zodiaque qui me feraient m'évader pendant une des permissions. Alors, je ne sais pas comment ils avaient réussi à avoir ça, mais apparemment, Nessim, dont je parle dans mon livre, qui est un ange gardien et un franco-turc juif très connecté au pouvoir, avait réussi à avoir cette possibilité. Donc, j'allais m'évader de prison avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire avoir une nouvelle identité, avec un nouveau nom, un nouveau prénom, un nouveau numéro de sécurité sociale. Et quand mon frère venait au parloir me dire ça, mais j'éclatais en sanglots et je me disais, mais ça peut pas être devenu ma vie, Xavier. Comment est-ce que je pourrais me regarder dans un miroir? Je serais en cavale toute ma vie. Si ça se trouve, je serais arrêté dans un autre pays. Donc ça, de toute façon, n'a pas marché puisque j'ai été transféré en 2020, le 6 janvier 2020, à la prison de Giresun, dans le nord-est du pays, donc à l'opposé de la Turquie, de la Grèce, plus de l'approche de la frontière russe. Donc, il n'y avait aucune possibilité d'évasion. Mais il était également question, enfin, il a été prévu, donc, de me faire retransférer vers une autre prison. Mais cette fois-ci, Nessim avait engagé un groupe de Tchétchènes qui tuerait, en fait, tous les gardiens du fourgon dans lequel je me trouverais. Et là, ils auraient été là pour m'exfiltrer, en fait, d'autres Tchétchènes auraient été là pour m'exfiltrer et me livrer contre rançon, bien entendu, à Nessim et me faire repartir en France. Quand Xavier venait me dire ça au parloir, je lui disais, mais comment je pourrais marcher sur des corps d'êtres humains qui viennent d'être tués? J'y arriverais pas. Je suis un être sensible, très empathe, et je ne me vois pas faire ça. Il me dit, Fabien, c'est la seule solution, il faut qu'on fasse ça. Donc les jours passent, ça ne marche pas. Une autre solution apparaît. Ils ont fait une connexion avec un juge de la Cour suprême qui a accepté de me libérer contre la somme de 500 000 euros. Moi, je trouve ça incroyable de demander 500 000 euros dans un cas aussi anecdotique que le mien. Et donc, on amène les 500 000 euros à la Cour suprême. Il se trouve que le juge en question s'est fait limoger la veille. Donc, tous ces éléments m'ont fait tenir quelque part, mais en fait, à chaque échec, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui coince? On a les connexions, on a l'argent, je suis pas un criminel, je suis pas un... j'ai rien fait d'impardonnable, et rien, tout est bloqué. Jusqu'au moment où, alors jusqu'alors, mes prières à ma mère, qui est décédée quand j'étais jeune, c'était toujours, maman, protège mon frère, protège mon chien. Laisse-moi rentrer à New York chez moi. Jusqu'au moment où un jour, juste après avoir lu un livre sur les synchronicités, je me suis dit, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, c'est pas possible. Donc, les prières à ma mère ont changé. J'ai demandé à ma mère, maman, si tu penses que je dois retourner en France, envoie-moi trois signes. Je veux deux papillons et une libellule. Et j'ai fait exprès, en fait, de choisir trois signes quasiment impossibles à trouver en prison. Parce que pour moi, Paris, c'est pas vraiment la ville où je me sens à l'aise. Et je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, non plus, je ne me sens pas à ma place. À New York, j'étais comme un petit poisson dans l'eau. Je connaissais les endroits, je connaissais les gens. Et Paris, j'ai encore du mal avec mes repères, à trouver mes repères. Donc, j'ai demandé ces trois signes à ma mère. J'ai demandé le soir en allant me coucher. Le lendemain, je me réveille. Il y avait une petite courette avec des murs très, très, très hauts et des fils de barbelés en électrique. Donc, c'était des fils tendus, mais c'était électrique. Et donc, le matin, je vais lire un petit peu ou faire des mots croisés. Et je vois un papillon de nuit qui s'affole à côté de moi. Non, je dis ça, c'est un papillon de nuit, ça ne veut rien dire. Quelques heures se passent, je rentre, je fume une cigarette, je ressors. Et là, je vois un monarque, donc c'est ce papillon orange et noir, qui descend de ce mur de je ne sais combien de mètres, il fait un tour dans la courette et qui retourne vers le ciel. Je me dis, waouh, donc ok, le premier, ce n'était pas un vrai papillon, mais ça, c'est vraiment un papillon. Je vaque à mes occupations, je vais déjeuner, je ressors, et là, Aurore, je vois quelque chose de bleu sur le fil barbelé. Et là, je pense à ce moment perdre la tête. Donc, je demande à un codétenu, hey, toi, qu'est-ce que tu vois là-haut? C'est quoi ce truc bleu? Et le détenu me dit, oh, c'est marrant, c'est une libellule. J'en ai jamais vu en prison. Et là, je fonds en larmes, en fait. Non seulement parce qu'il y a vraiment une libellule, mais aussi parce que la libellule va se déplacer de centimètre en centimètre pendant 2 heures. Si bien que si je l'avais ratée pendant une seule Bah, si j'avais pas été dans la cour pendant qu'elle était là, quand je serais ressorti, elle aurait été là. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit à ma mère, d'accord, maman, je rentre en France. Si jamais je me fais libérer ou transférer, je rentre en France. À partir de ce moment-là, on a eu la médiatisation. On a eu toutes les portes ont volé en éclats. La médiatisation, comité de soutien Facebook qui a été orchestré par Sophie Wiesenfeld, que je remercie et je ne saurais jamais assez remercier. Des lettres d'anonymes, un élan humanitaire que je n'aurais jamais soupçonné. Le cas de jurisprudence que mon avocat turc a trouvé, c'était le cas d'un citoyen turc qui avait été arrêté 2 mois après moi, mais qui a été libéré en première instance, qui m'a permis justement moi, de faire valoir mes droits auprès de l'ambassadeur turc en France, qui ne voulait pas évidemment que ce papier s'ébruite dans la presse internationale. Que mon avocate avait menacé si j'étais pas libéré ou transféré. Mais donc le transfert a eu lieu très rapidement après ma prière à ma mère, qui me fait croire que j'avais en fait, à partir de ce moment-là, fait l'apprentissage que je devais faire en prison et que non, je ne devais pas retourner à New York parce que si je retournais à New York, j'aurais continué de faire ces comportements destructeurs que j'avais auparavant. Et donc oui, j'ai une connexion forte avec ma maman et je la remercie de me guider dans les méandres de sa vie parce que sans avoir posé cette question, peut-être que j'y serais encore.
Et elle
Et
est
sans
toujours
avoir reçu cette...
présente.
Ah oui, alors j'ai une connexion avec Dieu, mais j'ai aussi une connexion avec elle et c'est magnifique. Je peux vous donner une petite anecdote si vous voulez. J'ai trouvé un appartement à côté du parc Montsouris, juste en face du parc Montsouris, donc c'est très calme, très résidentiel. Et le jour où j'ai signé pour cet appartement, j'ai été dans le parc Montsouris et je me suis assis sur l'une des chaises qu'il y a. Et j'étais comme ancré, comme fixé à la chaise. Et j'ai donc appelé mon père et je lui ai dit, papa, ça y est, j'ai trouvé l'appartement. Et là, je me suis posé au parc Montsouris, mais j'arrive pas à me lever. Je suis dans le siège, mais je suis comme soudé au siège. Et me dit, ah, mon fils, tu sais pas, mais le parc Montsouris, c'était le parc préféré de ta maman quand tu étais jeune, quand tu avais 2 ans, 3 ans. C'est là qu'on venait te balader alors qu'on habitait dans le 15e. Il y a d'autres parcs dans le 15e. Et là, j'ai commencé à fondre en larmes et je me suis dit, bah voilà, c'est comme si la boucle était bouclée.
Fabien, je pense que nous souhaitons préciser le cas de jurisprudence que vos avocats ont découvert et qui ont réussi à débloquer cette débâcle judiciaire.
Tout à fait. Donc, environ 6 mois avant mon transfert, 4 ou 5 mois avant mon transfert, mon avocate française, Olivia Montenot, ainsi que mon avocat François Vimeray, ont trouvé un cas de jurisprudence dans la jurisprudence turque, qui a été, enfin, c'est Nessim, donc, qui donnait des papiers, des tonnes de papiers qui ont été traduits, pardon, de turc en français, jusqu'au jour où on a trouvé un cas de jurisprudence turque, d'un turc, qui avait été arrêté en novembre 2017, soit 2 mois après mon arrestation. pour le même produit, en même quantité et sur le même site web d'où j'avais commandé et qui a été libéré en première instance. Ce qui prouve que non seulement aucun des avocatures, des cinq cabinets d'avocature que j'avais engagés n'ont fait leur travail, parce que pour eux, c'était directement accessible de voir les jurisprudences. Donc, quand mon avocate française a trouvé enfin ce cas de jurisprudence, elle a été directement voir l'ambassadeur turc en France, qui venait d'être appointé, et elle lui a dit, maintenant, si vous ne libérez pas mon client, ce papier fait la presse internationale. La Turquie ayant comptant beaucoup sur les touristes internationaux, parce que une grande partie de l'économie est liée au tourisme en Turquie, tout le monde s'est un peu affolé à Ankara. Et en fait, mon transfert s'est effectué 2, 3 mois après ce meeting, ce qui ne se produit jamais. C'est-à-dire depuis la ratification de la Convention de Strasbourg en 1983, il n'y a eu en date, aucun transfert de détenus à l'étranger vers leur pays d'origine. Donc moi, j'ai un cas qui fait école un peu. Et la raison pour laquelle j'ai été transféré et non libéré, c'est que la Turquie refusait d'admettre que j'étais un innocent, mais elles ont implicitement accepté que je sois libéré après quelques mois. J'ai passé 2 mois à la santé. Donc c'est un système un peu hypocrite qui montre une justice à deux vitesses. Moi, le franco-américain juif qui écope de 16 ans, 8 mois, contre un citoyen turc qui est censé connaître la loi mieux qu'un étranger, qui se fait libérer instantanément. Donc, ça a été l'élément déclencheur qui a contribué à ma libération. Et je remercie donc Nessim, Karel Olivia Montenot et Françoise Imray, qui ont été mes anges gardiens, qui n'ont pas lâché et qui m'ont fait finalement être transféré puis libéré le 2 novembre 2021.
Alors, ils ont été obligés de requalifier les actes pour lesquels vous aviez été jugé en Turquie afin de vous faire retransférer en France. La requalification était du recel et de la vente au public de GBL avec association de malfaiteurs, qui en droit français est condamné pour 5 ans. Mais il fallait pouvoir faire comme si vous étiez coupable afin de vous prouver innocent.
Exactement, exactement, parce que le GBL était une substance vénéneuse en France, donc pas condamnable, pas de prison, rien de tel, mais les Turcs n'ont accepté mon transfert que si je alors normalement les transferts c'est peine équivalente dans le pays d'accueil, mais comme moi ils étaient coincés par ce cas de jurisprudence. Ils ont accepté cette requalification qui ne demandait que 5 ans de prison, qui signifiait qu'en quelques mois, avec les aménagements de peine, je serais dehors.
Et là, vous arrivez à
Faut
la
savoir.
prison de la santé.
J'arrive donc à la prison de la santé le 17 août 2021, transféré par Interpol Turquie et accueilli par Interpol France. Donc, je ne sais pas si vous et les auditeurs peuvent s'imaginer des chars militaires de chaque côté, des gens avec des mitraillettes, comme si j'étais l'ennemi public numéro un. C'est assez impressionnant d'ailleurs, mais une partie de moi n'y croyait pas jusqu'au moment où la porte de l'avion s'est fermée et que l'avion a commencé à décoller. Je croyais qu'ils allaient me débarquer de l'avion et que j'allais retourner en prison. Et donc, quand je suis arrivé à la prison de la santé, les conditions de détention étaient tellement différentes. On avait une cabine téléphonique dans la chambre, la télé, j'étais en cellule individuelle, on avait un frigidaire, une plaque pour cuisiner. Enfin, c'était le jour et la nuit. Mes jours n'étaient plus en danger, je le savais, et je me suis très vite accoutumé au nouveau système. Je voyais une psychiatre 3 fois par semaine, il y avait atelier de lecture. Alors, bien sûr, je vais pas dire que c'était le Club Med. Mais pour moi, venant de conditions d'incarcération telles que on était enfermé 24 heures sur 24, on avait droit à 1 heure par semaine de promenade. C'était passé d'une prison à un hôtel une étoile, on va dire.
Alors, vous
Et
rencontrez
donc,
un co-détenu qui est
alors oui, alors
radicalisé.
voilà, j'ai rencontré entre autres, il y avait dans la promenade qui se faisait 2 fois par jour. Des personnalités célèbres ou qui avaient été médiatisées. Et donc, il y avait donc des musulmans, un juif, deux maires, un ex-ministre. Et donc, je rencontre aussi, enfin, je vois donc ce terroriste Personne ne lui parlait. Il était tout le temps assis sur un espèce de banc avec les yeux rivés vers le sol, et je sentais qu'il avait, bah, que son âme avait quitté son corps. Il était complètement éteint. Et je fais des tours seul dans la cour, dans la promenade, et puis j'entends tout d'un coup une voix qui me dit: Fabien, va lui parler. J'essaie d'oublier cette voix. Je me suis dit, c'est mon intuition, c'est moi qui suis un peu gentil et naïf qui veux aller lui parler, mais il a fait du mal à des gens de ta communauté, tu vas pas aller lui parler. Je refais un tour le lendemain et j'entends encore cette voix plus forte qui me dit: Fabien, va lui parler. Donc je me décide d'écouter mon intuition et je vais donc lui parler. Je lui demande de se présenter, de me dire qui il est, enfin ce qu'il a fait. Donc il se présente, c'est Mahmoud, il a 27 ans, il vient du Pakistan. Il est venu à pied du Pakistan pour tenter de retrouver son petit frère de 19 ans qui s'était échappé du Pakistan aussi à pied et qui avait rejoint la France. Et que il faisait, donc Mahmoud était venu en France et faisait peintre en bâtiment. Mais avant de quitter le Pakistan, il avait été voir un imam qui lui avait dit que s'il tuait des juifs, il retrouverait son petit frère. Donc Mahmoud, les week-ends, ne passait ses week-ends qu'à chercher son frère, et il ne le trouvait pas. Et un jour, en désespoir de cause, il s'est souvenu de ce que l'imam lui avait dit. Et donc, il a pris une hache dans son atelier de travail et il a essayé de tuer deux retraités juifs. Et donc, il m'a confié que dès qu'il avait vu le sang sur ses mains, il avait réalisé qu'il avait fait quelque chose d'irréparable et que ça lui ramènerait pas son frère. Et je lui ai demandé s'il se repentait. Il me dit, mais 1000 fois. Je lui ai demandé aussi si jamais il était libéré, s'il referait. Il me dit, pour rien au monde, il me dit. Et maintenant, ayant été avec de nombreux terroristes dans ma prison turque, des terroristes de Taliban, Daesh, qui avaient un regard noir et clairement de l'animosité dans leurs yeux, j'avais un peu développé un flair pour qui est dangereux, qui est pas dangereux. Mais j'ai quand même choisi de ne pas croire ces mots pour argent comptant, et j'ai essayé un peu de le challenger. Et donc je lui ai dit, tu sais que je suis juif et gay. Il me dit, bah oui, je t'ai vu à la télé. Il me dit aussi, bah tu sais que dans mon pays, moi j'ai des amis chrétiens, gays, on est une famille d'agriculteurs, on respecte tout le monde. Et au fur et à mesure des jours, il me demande est-ce que je peux l'aider à apprendre le français, parce que tout se faisait en anglais. Les Pakistanais parlent anglais pour la plupart. Et donc, il parlait anglais. Et donc, il me demande de lui apprendre le français en ourdou. Il avait un bouquin en ourdou phonétique. Donc, chaque promenade, pendant 15 ou 20 minutes, je commence à lui apprendre le français. Et je vois peu à peu de la lumière revenir dans ses yeux. Au cours des jours qui suivent, les autres détenus me voient, moi, en tant que juif, parler à un terroriste. Et je pense que ça attise un peu leur curiosité. Et puis, bah, qu'ils disent, si Fabien peut parler à ce type qui a essayé de tuer deux de ces gens, bah nous aussi on peut essayer de lui parler. Donc il commence à l'inclure dans les jeux de ping-pong, les jeux de basketball. Peu à peu, je vois l'âme de Mahmoud se raviver et je vois des liens se tisser même avec l'autre juif qu'il y avait. Et c'est là, à ce moment-là, où je me dis, bah voilà, ta mission en prison est achevée et complète. Alors il faut savoir que pendant mon incarcération, je suis vraiment passé par plusieurs phases: la peine, l'incompréhension, la colère, la rage. Ensuite, ça a fait place à l'acceptation, et puis ensuite à la capacité de pardonner que j'ai développée, bah, en dernier. Et puis quelques semaines après, bah, j'ai été libéré. Et ma psychiatre de la prison, qui continue à me suivre en consultation externe, me dit, Monsieur Azoulay, vous savez, les détenus vous ont pas oublié. Et Mahmoud non plus. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai fait quelque chose de bien en prison. J'ai peut-être déradicalisé un terroriste, et peut-être que ça lui servira dans sa vie future à lui-même déradicaliser certains de ses amis qui sont peut-être des terroristes ou qui sont tentés de se faire radicaliser.
Alors, c'est un beau
Et je
message
trouve,
de paix, n'est-ce
oui,
pas?
je pense que justement, à l'époque à laquelle nous sommes, avec ce conflit israélo-palestinien, je trouve que c'est un beau message de paix. Alors bien sûr, il y a des crimes qui sont inexcusables, mais je pense que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a 50, 50 shades of grey, comme on dit en anglais. Il y a 50 nuances de gris, et que tout le monde n'est pas mauvais. Et il y a des individus qui, s'ils apprennent de leurs erreurs, peuvent se rattraper, peuvent se racheter, peuvent avoir une rédemption.
Et comment allez-vous aujourd'hui, Fabien?
Écoutez, ça a été un peu une traversée du désert, ma reconstruction. Je ne peux pas dire que il y a 2 mois encore, j'étais dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Mais c'est un moment, c'était un passage obligé. Il y a eu un contre-coup violent de la prison. Il y avait des semaines et des mois où je restais terré chez moi dans le noir, à ne penser à rien, en ayant une frayeur de tout, des voitures, du métro, des gens. J'arrivais pas à passer le seuil de ma porte. J'avais ce qu'on appelle le syndrome du prisonnier. Et je suis passé par des moments où j'avais des pensées suicidaires. Et très récemment, il y a eu comme un déclic qui s'est fait et j'ai repris goût à la vie. J'ai repris, je vois la vie en couleur. J'apprécie chaque beauté de la vie, de la nature, les levers du soleil, les couchers du soleil. Et je me dis que j'ai tellement de chance d'avoir des amis si proches, un frère extraordinaire, des avocats qui sont devenus aujourd'hui des amis et que je redécouvre ou découvre une vie à Paris dont je ne comprends pas toujours la logique, mais dont je m'y fais de plus en plus chaque jour. Et je pense que ma mère m'a ramené à Paris pour être plus proche de mon frère, qui est mission accomplie puisqu'on se voit toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on se fait au téléphone tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc oui, aujourd'hui ça va bien mieux et je suis reconnaissant à Dieu parce que c'est encore ma reconnexion à lui est plus forte encore aujourd'hui.
Merci Fabien Azoulay. On rappelle votre livre Istanbul, dernier arrêt aux éditions Stock. Bonne journée.
Merci à vous, Aurore. Bonne journée.